Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radion et dans l'émission littéraire de votre radio locale, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, 33e numéro de votre émission littéraire, un numéro ce soir consacré à Vie de Job, le dernier ouvrage de Pierre Assouline paru aux éditions Gallimard. C'est effectivement le 30 mars dernier, alors qu'il était invité à Dijon au club des écrivains de Bourgogne, que j'ai pu m'entretenir avec Pierre Assouline. Pierre Assouline est né à Casablanca en avril 1953. Il est journaliste, romancier, biographe, ancien responsable du magazine Lire et membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire. Il est connu pour ses travaux de biographe. Il a notamment rédigé des biographies de Marcel Dassault, de Georges Simenon, de Gaston Gallimard, de Jean Jardin, de Kahn Weller, d'Albert Londres ou encore de Hergé. Il a été chroniqueur pour plusieurs radios et journaliste, notamment pour Le Monde et Le Nouvel Observateur. Il est l'auteur de plusieurs milliers d'articles et de chroniques radio. Avant de vous proposer l'entretien que j'ai réalisé en compagnie de Pierre Assouline, je vous propose d'abord de redécouvrir, si besoin, ce mythe biblique et littéraire qu'est la vie de Job. Job, le personnage biblique. Il s'agit d'un extrait, donc, de l'ouvrage de Pierre Assouline, « Vie de Job », lu par Roland Lécuyer.
Un jour, à l'origine des temps, un homme nommé Job n'a plus de maison. Écoutez son histoire. Il vit à Us. Il est droit de cœur, intègre, craignant Dieu. Il est l'incarnation de la perfection morale. Le Très-Haut lui-même le dit. Ce n'est pas un homme de vertu. Il n'a pas fait le bien, du moins à notre connaissance. Mais on sait qu'il n'a jamais commis le mal. D'excellentes mœurs et d'une grande réputation de rectitude, il se distingue par des vertus non pas intellectuelles, mais morales. Il est sans ruse ni malice. La vie l'a comblé. 7 fils, 3 filles, 7000 moutons, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, une femme. Soudain, il est entraîné dans le malheur absolu. Tout lui est progressivement retiré. Fortune, bien, serviteur, enfant, maison, sans raison apparente, sans la moindre explication. Il perd tout son avoir. Ne lui reste plus que son être, qui le garde conscient de sa souffrance. Mais pourquoi, mon Dieu ? Ainsi en a décidé le conseil divin. Le Satan, qui participe dans sa fonction de provocateur, a lancé un défi à Dieu, à la droite duquel il siège, là où se situe la rigueur. Ce rôdeur, qui va sur la terre pour sonder les reins et semer le doute dans les âmes, prétend lui démontrer que Job est vertueux parce qu'il est prospère. Sa félicité le pousse à louer Dieu. Mais si sa situation devait péricliter, elle entraînerait sa vertu dans sa chute. En vérité, la crainte serait à l'origine de son amour. Dieu ne le croit pas. Ce n'est pas la peur, mais le respect qui lui fait redouter le ciel. Indécis, Dieu n'en relève pas moins le défi. Il met donc lui-même à l'épreuve son fidèle parmi les fidèles. Job l'ignore. Le voici moralement accablé. Il est bouleversé par le scandale de son propre malheur. Le dépouillement le gagne. Pour autant, il ne cesse pas de bénir son Dieu. Redoutant de perdre la partie, le Satan renchérit en demandant à Dieu de toucher Job dans sa chair sans le punir à mort, afin que le pari garde tout son sens. Job tient bon après la perte de ses biens, puis de ses enfants, mais vacille quand son corps est attaqué. Il ne s'exprime plus que du bout du cœur. Il souffre, mais ne se rebelle pas comme il pourrait le faire en salissant sa bouche de sales mots, d'un verbe qui défigure. Il se réfugie dans le silence. Banni par la société, il n'est plus qu'une plaie vivante sur un tas de fumier à la sortie du village, loin de la compagnie des hommes, occupé à racler ses plaies purulentes. Il est probable qu'il pue et que sa pestilence contribue à son isolement.
Bonsoir Pierre Assouline.
Bonsoir.
Merci de répondre à ces quelques questions pour l'émission littéraire de Radio Wagon Livre. Vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard Vie de Job, vie au pluriel. Alors le biographe que vous êtes, celui qui s'est penché sur la vie de Gallimard, de Hergé et d'autres personnages, s'intéresse tout d'un coup à un personnage biblique qui est effectivement un personnage dans la Bible, mais qui, hors de la Bible, est aussi un mythe littéraire. Alors, moi, en vous lisant, Pierre Assouline, j'ai eu le sentiment que vous nous expliquiez qu'il y a une sorte d'hérédité de Job, il y a d'autres Jobs, d'autres hommes qui, finalement, portent, après les coups du sort ou différents malheurs, l'identité de Job. Une sorte de nomadisme de Job à travers le temps, depuis plus de 2500 ans.
Mais c'est aussi le cas de tous les autres grands mythes littéraires, puisque vous les présentez comme tels, littéraires ou religieux, en tout cas mythes universels. On peut en dire autant de Job que de Don Juan, par exemple, pourquoi pas, ou d'Œdipe, ou de beaucoup d'autres. Donc moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est la fortune de cette légende, de ce mythe, de cette parabole, puisque je le prends avant tout comme une parabole. Je ne veux même pas essayer de savoir s'il a existé, s'il n'a pas existé. Évidemment, ce n'est pas la question.
On ne sait pas trop, en fait.
Non, on ne sait pas trop. De toute façon, la recherche serait vaine. Ça ne correspond à rien. Pour moi, c'est une parabole. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette parabole est incarnée depuis toujours, depuis 25 siècles. C'est une parabole faite homme. C'est-à-dire que Job, les gens le voient. Les gens savent qui c'est. Il y a quelque chose de fraternel en Job. Ce qui n'est pas le cas de Moïse, d'Abraham, de David ou d'un autre, de tous les patriarches, celui-là est fraternel parce que il est à la mesure de l'homme. C'est-à-dire qu'il est comme nous, il est des nôtres, il n'est pas au-dessus. Et c'est ça qui fait que tout de suite je me suis senti en terrain avec lui, en terrain commun. Je me suis identifié, mais de longue date, hein, c'est pas d'aujourd'hui.
Presque en sympathie au sens étymologique
du
terme.
Oui, en intelligence même, c'est-à-dire une sorte de complicité. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, évidemment. Et c'est ça qui est bien. C'est que le livre de Job a aidé beaucoup de gens à vivre, à survivre, à affronter la maladie, la mort des autres, l'absence des êtres chers. Parce que ça pose encore une fois le problème universel de la question du mal et comment affronter l'énigme du mal, qui se résume très souvent de manière profane et assez rapide. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça ?
Le pourquoi ?
C'est le pourquoi. C'est toute la question de la rétribution. C'est pourquoi moi ? Alors, quand un homme meurt à 70 ans en ayant fumé 4 paquets de cigarettes par jour pendant toute sa vie, on ne se révolte pas. Ses proches ne se révoltent pas, mais lui-même serait mal fondé à se révolter. Et quand un homme perd un enfant de 3 ans et qui ne comprend pas pourquoi ? Parce que c'est la maladie qui le ronge, lui peut s'en prendre au ciel, qu'il soit croyant ou pas, parce que c'est une démarche même laïque, hein, très souvent, s'en prendre au ciel et lui demander pourquoi moi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, cette injustice-là. Donc ça, c'est l'attitude de Job, et c'est celle de tant de gens depuis 25 siècles. Donc moi, mon enquête, l'enquête de mon biographe, qui est le héros de ce livre, a consisté à aller dans deux directions. D'abord les livres, tout ce qui a été écrit sur Job, les articles, les livres, tout. Et Dieu sait qu'on en a écrit sur lui, une cathédrale de papier. Et puis, d'autre part, aller sur le terrain, à la rencontre des gens.
Donc vous êtes allé à Jérusalem, à l'école biblique.
Alors là, j'étais à Jérusalem d'abord pour les livres. Parce que l'école biblique, c'est une des plus belles bibliothèques au monde sur la Bible. Je voulais étudier les textes avec les meilleurs professeurs qui soient. Donc j'ai passé du temps là-bas. Mais à Jérusalem, j'ai aussi rencontré des gens.
Et vous étiez un apprenti jobologue.
Un jobologue amateur, très très amateur et très admiratif des gens qui ont fait des thèses sur le sujet et qui ont passé leur vie à étudier Job, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, parallèlement à cela, à Jérusalem, mais aussi à Paris, à Bombay, à Villefranche-sur-Saône, à un peu partout en France, à Lausanne, à Londres, partout où mes pas m'ont mené, j'ai été à la rencontre des gens qui sont fascinés par ce livre de Job. Ça, c'est le hasard des rencontres. Des gens me disaient « Ah tiens, tu devrais voir un tel, un tel, un tel. »
Mais est-ce que, comme Julien Green, vous avez le livre de Job dans la poche de votre pardessus ?
Je l'avais tout le temps sur moi. Tiens, depuis quelque temps, je ne l'ai pas, mais je l'avais tout le temps, effectivement. C'était important pour moi de l'avoir.
Excellente soirée à toutes et à tous, vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, votre radio locale. Nous nous entretenons ce soir avec Pierre Assouline, auteur de Vie de Job paru aux éditions Gallimard. Avant de retrouver l'entretien réalisé avec le romancier et historien, je vous propose un nouvel extrait de Vie de Job de Pierre Assouline, lu par Roland Lécuyer.
Job est partout et on ne peut pas être partout. Malgré Google Earth, restent les reproductions auxquelles manquera toujours l'âme de l'accrochage aux simèzes, le toucher de la patine, l'éclat d'un détail, la couleur dans toute sa vérité, toute chose que jamais le virtuel ne vaincra. Le vieux continent regorge de livres et de tableaux. On le secoue, il en tombe de partout. On n'en peut plus. À traquer mon ami dans les bibliothèques et les musées, j'ai failli succomber à un syndrome de Job qui s'apparente non à la folie des démangeaisons cutanées, mais à l'étourdissement de Stendhal à Florence. Une voix intérieure m'a crié « Ouvre les fenêtres, lâche les livres !» Ce que j'ai fait à la fin, mais à la fin seulement. L'exercice de la biographie se pratique en quatre temps. Absorption, rumination, décantation, déglutition. Il faut tout lire et tout écouter avant de tout oublier. Ne surnagera que ce qui devait surnager. Le biographe doit demeurer un animal à sang-froid qui s'exprime au singulier de l'humilitif. Sa main ne tremble pas lorsqu'il écrit que Job est l'homme de sa vie. On ne perd jamais son temps à solliciter le bon vieux dictionnaire d'Émile Littré. Il est édifiant d'observer la manière dont il évoque Job. D'abord une définition, nom d'un patriarche de l'histoire sainte, suivi d'une citation, sinon Littré ne serait pas Littré, une pensée de Pascal sur le vécu comparé de la misère par Salomon et Job. Ensuite une série d'expressions dérivées décrescendo, livre de Job, livre raconté l'histoire de ce patriarche, puis, inévitablement, pauvre comme Job, excessivement pauvre. Et plus rare, Les amis de Job se disent de ceux qui adressent des reproches à un homme malheureux. Enfin, et c'est le dernier exemple, populairement, c'est la femme à Job, se dit d'une femme acariâtre. Elle a le mauvais rôle. La faute aux pièces de théâtre des XIVe et XVe siècles qui firent souvent rire les spectateurs à ses dépens pendant les entr'actes. Tous les récits ne moquent pas la femme de Job. Il en est qui loue son souvenir. Une légende de Job, de 84 strophes de 4 vers chacun en judéo-arabe, accorde une place de choix à celle qu'elle nomme Rama. Psalmodiée dans les temps reculés, dans les synagogues marocaines, le 9 Ab, jour anniversaire de la destruction du temple de Jérusalem, où l'étude de la Torah est interdite en raison de la joie qu'elle suscite, cette complainte la dépeint comme une épouse fidèle, dévouée au point de mendier à seule fin d'aider son mari, épuisée par l'intransigeance de celui-ci qui la rend irascible. Elle vend sa splendide chevelure pour une mesure de date. Le savant Haïm Zafrani, qui a retrouvé cette pièce anonyme, souligne cette originalité. Les femmes qui l'avaient achetée en firent des tresses, mais ne purent s'emparer, car à chacune de leurs tentatives, les mèches s'envolaient comme des oiseaux.
Alors, Job, ce qu'il faut expliquer à nos auditrices et auditeurs, c'est que finalement, c'était, vous l'écrivez, une âme de diamant, un homme en fait très, pas presque parfait, mais disons irréprochable, enfin, contre lequel on ne pouvait rien dire de mal. Et il est le jouet, en fait, un peu de Satan avec l'accord de Dieu. C'est Satan qui le dépossède de tout ce qu'il possède. Et Dieu accepte que Satan fasse de Job son jouet. J'exagère en disant cela ?
Non, mais je mettrai deux correctifs. Première chose, ce que vous racontez là, c'est vrai. Nous, lecteurs du livre de Job, nous le savons, mais Job l'ignore. Et c'est très important de savoir pour nous qu'il l'ignore, parce que c'est un fléau de plus. Ce qui le révolte, c'est de ne pas savoir.
C'est ça.
S'il savait, à la limite, ce serait différent. Mais il ne sait pas ce qui lui arrive. Il sait ce qui lui arrive, mais il ne comprend pas pourquoi. Il est comme le Joseph K. du procès de Kafka. Il réclame des comptes. Il veut savoir. C'est une torture morale, qui est un mal supplémentaire qu'il lui a envoyé, de ne pas savoir pourquoi il est puni.
C'est pour
pourquoi
ça que
ce châtiment.
La souffrance de Job, c'est une souffrance donc qui est morale, qui physique, est intérieure.
Non, elle est physique aussi.
Parce qu'il y a les pustules, il y a les croûtes, il y a la dégradation du corps.
Et puis la perte de ses biens, mais la perte de ses enfants. Mais aussi, il y a la souffrance morale qu'on oublie trop souvent quand on résume le livre de Job, c'est qu'il ne sait pas ce que nous savons. La deuxième chose, vous dites Satan, moi je dis le Satan. Parce que Satan, quand on dit Satan, c'est le diable. Or, dans le livre de Job, qui est donc écrit en hébreu, ce n'est pas Satan, c'est le Satan. Et le Satan, ce n'est pas le diable à l'époque, c'est l'adversaire, c'est l'accusateur public, c'est un procureur, c'est cet adversaire qui est à côté de Dieu et qui passe son temps à lui lancer des défis pour le mettre devant ses contradictions et qui n'y arrive pas souvent. Et là, c'est effectivement un pari entre Dieu et le Satan.
Mais alors, Pierre Assouline, quelle est la morale du livre de Job ? C'est-à-dire, Dieu est tout-puissant, il fait ce qui lui plaît ? C'est une des morales possibles ?
La morale, ça, c'est pas la morale, c'est le moyen de la morale. Pour accéder à la morale, on passe par ce que vous venez de dire, et on accède à la morale qui est de dire, il faut aimer Dieu gratuitement. Il ne faut rien attendre en retour. C'est toute la question de la rétribution. Si on attend quelque chose, si on est intéressé personnellement à l'amour de Dieu, on passe à côté de l'essentiel de son message. Si on n'attend rien, tout peut arriver, y compris le bien.
Notre Job se retrouve, je voyais encore une gravure de Gustave Doré par exemple, où l'on voit Job sur un tas de fumier, sur un tas de cendres, c'est-à-dire finalement la perte de tout confort matériel. Et aujourd'hui, et vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre « Vie de Job » donc aux éditions Gallimard, Pierre Assouline, vous écrivez que les chômeurs, certains chômeurs qui ont tout perdu, notamment leur emploi, et vous parlez de cette cadre dans l'industrie horlogère qui tout d'un coup pense à Job parce qu'elle a perdu son emploi, vous parlez aussi du malade du sida que vous considérez dans sa souffrance comme étant aussi dans l'attente de quelque chose qui peut être le bien ou qui peut ne pas s'améliorer non plus.
C'est-à-dire que je le considère, c'est surtout... ce sont des articles que je cite, des articles spécialisés, notamment un qui est Job et le sida, un autre c'est Job et le chômage. Toute personne dans l'adversité, dans l'affliction, pense à Job. Dès lors qu'il a lu la Bible, il pense à Job et s'identifie à Job.
Et
parce
vous?
Qu'il est, parce qu'il se demande qu'est-ce que j'ai fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait mal pour en arriver là?
Et vous y avez pensé très fort à Job lorsque vous perdez votre père et votre frère, Jean-Jacques,
oui.
C'est bien cela?
Oui, j'y ai pensé, en même temps, j'y ai pensé en faisant mon enquête. Parce que je, pas sur le moment. Mon frère, j'avais 16 ans, et quand on reçoit le deuil à 16 ans, on analyse rien du tout. On subit, on est dans la prière, on est dans la révolte, mais on n'est pas dans l'analyse. En tout cas, c'était pas mon cas. C'est bien plus tard, en écrivant ce livre, que j'ai compris d'où me venait mon obsession pour Job. Elle me venait justement des paroles du livre de Job que j'avais entendues pour la première fois au moment du deuil, à l'âge de 16 ans, parce que le rituel du deuil juif est fait en grande partie des paroles du livre de Job. Mais j'ignorais. C'était là, mais j'ignorais d'où ça venait. Maintenant, je sais.
Thank you.
Vie de Job de Pierre Assouline aux éditions Gallimard, tel est l'ouvrage qui nous intéresse ce soir. Nous allons entendre d'ici quelques instants un nouvel extrait de ce livre lu par Roland Lécuyer avant de retrouver l'entretien avec Pierre Assouline, un entretien réalisé à Dijon à l'hôtel Sofitel La Cloche le 30 mars dernier, alors que Pierre Assouline était invité par le Club des écrivains de Bourgogne.
Pendant des années, j'ai envisagé de ne photographier que des cimetières et d'en faire un recueil. Il me fallut du temps avant de pouvoir dissocier la photographie de la mort. Le concept de résilience devait bien exister quelque part, mais je l'ignorais, d'autant que le professeur Cyrulnik ne l'avait pas encore popularisé. Quelques dizaines d'années après, en me promenant une partie de la nuit dans les rues de Montpellier, tout en bavardant avec lui, je me suis rendu compte que j'avais fait de la résilience comme Jourdain de la prose. Mais s'il suffisait de refuser de se résigner à la fatalité du malheur, Job serait le saint patron des résilients. Cyrulnik explique que pour mettre la souffrance à distance, il faut la métamorphoser. Ce que j'ai fait à mon insu. Au lieu de photos qui n'auraient parlé que de ça, j'ai écrit des livres qui parlaient de tout sauf de ça, du moins directement. Les choses se disent toujours mieux de biais. Un jour, j'ai compris que j'avais recomposé la vie des grands hommes pour me donner des aînés de substitution. Ma famille de papier est une équipe de grands frères. La mort de mon frère m'a éloigné de Dieu, celle de mon père m'en a rapproché. À croire que le scandale est plus inacceptable à 16 ans qu'à 37. Mon frère empruntait la voiture sans le dire, mais on ne punit pas de mort un tel mensonge par omission. Moins grave que celui dont je me rendais coupable en le couvrant. On m'a souvent demandé comment je réussissais à m'attirer aussi facilement la confiance des centaines de témoins que j'interrogeais pour mes biographies et comment les familles acceptaient de me confier leurs précieuses archives. J'ai toujours répondu par un sourire étonné, alors qu'au fond de moi, je savais. Ces gens me font confiance parce qu'ils sentent que je ne les trahirai pas. Je sais garder un secret.
Alors, la souffrance de Job, nous l'avons dit, elle n'est pas physique, elle est intérieure. Et aujourd'hui, on peut dire finalement que tous nous connaissons un Job dans notre vie. Et nous pouvons tous devenir Job aussi.
Mais on en connaît plus qu'un. On en connaît plus qu'un. On a vu des gens mourir, on a vu des gens souffrir. On a tous vu des gens souffrir pour la mort des autres. On a tous vu des gens se rebeller contre leur sort et leur destinée. Donc Job est partout. Job est partout. Il n'a jamais cessé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que il a l'air comme ça un des plus discrets parmi les personnages de la Bible. Et puis il a donné naissance à des lieux communs, pauvres comme Job.
Tout à fait.
Qui est un lieu commun et qui est une contre-vérité, parce qu'il était riche en vérité. Il a eu une mauvaise passe, mais il est riche au début, il est riche à la fin, très riche même. Et c'est au milieu qu'il a une mauvaise passe. Donc pauvre comme Job, ça ne convient pas. Et la patience de Job, ça ne convient pas non plus. Il y a un problème de traduction. La patience, en fait, c'est la résistance.
Est-ce que vous pensez que les Japonais, actuellement, après le passage du séisme, est-ce qu'on peut les regarder comme étant des Job?
Nous, on peut, mais ce serait fausser l'image, parce qu'eux ne se voient pas comme ça, puisque la Bible ne fait pas partie de leur tradition. Donc, il y a probablement... Dans leur religion au Japon, je dis bien probablement, un personnage de juste souffrant. Je n'en sais rien. Mais j'ai retrouvé ça, par exemple, en Inde, qui est encore autre chose, une autre tradition. Mais l'histoire du juste souffrant, c'est une légende qu'on voit même à Babylone, bien avant.
Oui, vous en parlez même dans la culture mésopotamienne.
Mais bien sûr. C'est pour ça que c'est le rédacteur de la Bible, les trois rédacteurs, n'ont rien inventé. Mais ils ont repris des vieilles légendes anciennes et qu'ils ont adaptées à leur propre tradition.
Mais ce qui est réconfortant, c'est de voir que finalement, les juifs, les chrétiens et les musulmans s'accordent sur cette image du juste souffrant. Il existe, finalement, voilà. Il est vraiment universel.
Mais vous savez, les trois monothéismes que vous citez s'accordent sur beaucoup de choses, en fait.
Oui.
Puisqu'on retrouve Abraham, Moïse, on les retrouve dans les trois textes, dans les trois révélations. Mais c'est vrai que Job aussi. Simplement, sans doute, l'exégèse est différente, puisque même au sein des confessions chrétiennes, l'exégèse évolue en fonction de la confession, que ce soit protestant, catholique, orthodoxe.
En passant en revue et en essayant d'enquêter sur ce personnage qui vous embête, mais qui vous passionne à la fois, donc sur ce personnage de Job, vous parlez de François Nourricier. Il y a des morts, d'ailleurs, des gens qui nous ont quittés tout récemment. Je pense à François Nourricier, dont vous étiez grand ami. Lui aussi a perdu son père dans des conditions absolument terribles, parce que son père est mort à ses côtés pendant une séance de cinéma. Je crois qu'il avait 7 ans, c'était en 1935. Bon, vous avez perdu votre papa plus tard, votre papa étant décédé d'un cancer du foie, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. La disparition de François Nourricier, à qui vous alliez rendre visite à la maison de retraite, c'était pour vous aussi l'image d'un être brillant, une sorte de pape des lettres qui tout d'un coup était un peu sur un
tapis. Il se liquéfiait sous mes yeux, il pesait 25 kilos, son corps le lâchait, l'abandonnait, c'était affreux à voir, mais son esprit restait intact. Et il me disait, vous avez de la chance parce que vous croyez, alors que moi qui ne crois en rien, je serai incinéré. Et en attendant, tous les soirs, je me couche en ayant la peur et l'angoisse de la mort. Ça a duré 3 ans, cette angoisse.
Et vous, Pierre Assouline, tous les vendredis soirs, vous priez, où que vous trouviez.
Oui, je prie, je cherche une synagogue pour prier, parce que c'est une façon de me rapprocher de mes morts et de les rejoindre par la pensée. D'une certaine manière, de leur rester fidèle, en quelque sorte.
Vous résumez le travail du biographe à travers ces quatre termes, absorption, rumination, décantation et déglutition. On se nourrit des figures sur lesquelles on travaille.
Oui, beaucoup. Le biographe garde en lui, après, des valeurs, certaines valeurs de quelques-uns, de ses héros. Et moi, je conserve des choses très précises de Cartier-Bresson, de Canvel. Je sais ce que je leur dois. Des traits de caractère, une vision du monde, tel ou tel détail. Et évidemment, Job, vous imaginez, j'en conserverai beaucoup.
Alors, Assouline, il y a aussi le roman familial, vous revenez un petit peu aussi sur vos racines, puisque ce personnage de Job vous aide aussi à vous découvrir. Vous dites qu'Assouline, ça veut dire le rocher dans la langue des Berbères, alors en s'appelant effectivement Pierre Assouline, vous êtes un homme...
Pierre le rocher.
Eh oui.
Je suis doublement rocailleux, méfiez-vous.
Et alors, je voulais vous offrir avant qu'on ne se quitte, effectivement,
Job,
parce que vous en parlez.
Papier, cigarette.
Voilà, les auditeurs, bien sûr. Un petit.
Merci beaucoup.
C'est du papier à rouler de marque Job. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Il y a même une commune française au centre de la France qui s'appelle Job. Voilà, c'était le petit clin d'œil.
Merci.
En vous remerciant beaucoup, Pierre Assouline, d'avoir évoqué ce livre extrêmement érudit que vous faites paraître chez Gallimard, Vie de Job, signé de Pierre Assouline. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
J'espère que vous avez suivi avec intérêt l'entretien avec Pierre Assouline que nous vous avons proposé ce soir dans Wagon Livre. Je rappelle le titre du dernier ouvrage de l'audacieux biographe « Vie de Job » paru aux éditions Gallimard. Je tiens à souligner que cet entretien a été enregistré dans les salons du Sofitel La Cloche à Dijon le 30 mars dernier, alors que Pierre Assouline était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Et je tiens également à remercier Evelyne Philippe qui organise les rendez-vous presse lorsque un écrivain est reçu donc à l'hôtel Sofitel La Cloche dans le cadre des rencontres mensuelles proposées effectivement par le Club des écrivains de Bourgogne. Salutations distinguées et affectueuses à Evelyne Philippe avec tous nos remerciements. Avant de vous communiquer quelques informations littéraires ou culturelles, je vous propose d'écouter une jeune et talentueuse chanteuse. Il s'agit de Barbara d'Alcantara, découverte par le chanteur belge Julos Bocarn. Excellente soirée sur le 90.5 ou via internet sur le www.radion.fr. Je vous laisse en compagnie de Barbara d'Alcantara qui nous interprète « Ne t'approche pas comme ça », disponible en CD aux éditions Sabam.
Ne t'approche pas comme ça, ne t'approche pas comme ça. Tu vas me casser le cœur en mille morceaux et après, qui c'est qui balayera ? C'est moi. Ne t'approche pas comme ça, ne t'approche pas comme ça. Même si tu dis que tu t'en vas, c'est du pareil au même, tu sais. Je t'aime. Ne t'approche pas comme ça, ne t'approche pas comme ça. Je vais te manger tout cru, je vais te mettre nu. Et après, qui c'est qui prendra froid ? C'est toi. Ne t'approche pas comme ça, ne t'approche pas comme ça. Je vais t'aimer trop longtemps, je vais oublier l'heure et après, qui sait qui aura plus peur, c'est moi.
Après cette douce chanson interprétée par Barbara d'Alcantara, je vous confie une dernière fois le titre du livre de Pierre Assouline, « Vie de Job » paru aux éditions Gallimard. Avant de nous séparer, je tiens à remercier Roland Lécuyer qui a gentiment assuré les lectures du livre de notre invité ce soir dans Wagon Livre sur Radion. Je tiens à mentionner l'apparition du 150e numéro de la revue de poésie Décharge qui fête cette année ses 30 ans. Un hors-série est prévu pour marquer ce bel anniversaire et nous saluons le directeur de publication de cette revue de poésie, Jacques Morin, alias Jacques Mo, que nous avions reçu dans Wagon Livre en mars dernier à propos de son livre « La poésie de A à Z » selon Jacques Mo, paru chez Rubarbe, que dirige Alain Quévès, éditeur établi à Auxerre et que nous saluons également très chaleureusement. Restons en pays de poésie, si vous le voulez bien. En effet, mentionnons une belle manifestation autour de la poésie, manifestation qui se tiendra dans la Nièvre, à Bazoches du Morvan. Ce sera les samedis 2 et dimanche 3 juillet prochains, à la maison communale de Bazoches du Morvan, à côté de l'église. C'est la désormais fameuse samedi poésie, dimanche aussi, donc, avec un très grand nombre de poètes invités, Jean-Pierre Verheghen, Guy Goffet, Antoine Emaz, Ariane Dreyfus, Ludovic de Groot, Manuel Dole, William Cliff, Edith Azan, ainsi que des éditeurs, notamment les éditions de La Goulotte, installées à Vézelay, et également les éditions du Murmure, installées en Côte d'Or, et également la revue Décharge, installée près de Toussy et donc dirigée par Jacques Morin, invité de samedi poésie, dimanche aussi. Demain,
jeudi 16 juin à 18h30. Rendez-vous de lecture vous est proposé par l'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale d'Auxerre. C'est à la Bibliothèque Jacques Lacarrière, au service du préadulte. L'entrée est libre. Et puis, jusqu'au 18 juin, il vous reste encore quelques jours pour découvrir l'exposition « Les livres uniques » de Daniel Blanchland. Une plasticienne se penche sur les créations littéraires de ses amis écrivains en hommage à la donation de Daniel Blanchland à la Bibliothèque Municipale d'Auxerre. L'entrée est libre, c'est à la mezzanine de la Bibliothèque Jacques Lacarrière et c'est jusqu'au 18 juin prochain. Je mentionne également à la Maison Jules Roy de Vézelay, c'est jusqu'au 4 juillet prochain, l'exposition « Trait pour trait » des peintures d'Alain Coste. Le peintre Alain Coste présente donc à la Maison Jules Roy une exposition de tableaux abstraits géométriques constitués de lignes sur fond blanc. L'exposition est ouverte du 1er juin donc jusqu'au 4 juillet prochain. Je rappelle que la Maison Jules Roy est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h, le lundi de 14h à 17h. Attention, la Maison Jules Roy est fermée le mardi. Et puis, à noter dans vos agendas, mais c'est un rendez-vous qui concerne une séance de dédicace qui se tiendra à la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay toujours, le samedi 16 juillet prochain. Frédéric Lenoir et Violette Cabezos dédicaceront leur dernier roman paru chez Albin Michel, La Parole Perdue, c'est samedi 16 juillet 2011 à la librairie L'Or des Étoiles de Vézelay. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 22 juin à 21h, pour un entretien avec Michel Touvenot, qui a publié en auto-édition un délicieux témoignage sur son enfance passée avec son jumeau au Bois de la Madeleine, un hameau situé à 5 km de Vézelay, dans les années 45-46, auprès de ses grands-parents qui tenaient le café du village. Le roman s'intitule « Delphine, un canon » sur le mode exclamatif. Cet entretien a été enregistré en public le 4 juin dernier dans l'ancienne école des Bois de la Madeleine avec le concours de l'Association des Amis des Bois de la Madeleine et l'Association des Amis de Vézelay et de sa région. C'est donc mercredi prochain à 21h. Sur Radion. Excellente fin de soirée sur le 90.5 en compagnie de notre programme musical. À très bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.